La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La guerre à l'immanence. Les persécutions des sorcières, les clôtures et l'expropriation de la terre, les attaques contre les guérisseuses traditionnelles et les sages-femmes, la saisie et l'exclusion du savoir furent des facteurs puissants dans le changement des attitudes, des croyances et des sentiments du peuple. L'effet de ces événements ne se limita pas à la souffrance des victimes directes. Je cite « Ces événements furent la face visible de quelque chose de plus important, la révolution dans la pensée et le sentiment humain qu'impliquait l'imposition de l'éthique protestante. Les prédicateurs protestants de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle entreprirent une révolution culturelle, un exercice d'endoctrinement et un lavage de cerveau à une échelle sans précédent jusque-là. Nous n'arrivons pas à le reconnaître, tout simplement, parce que nous vivons dans une société qui a subi ce lavage de cerveau. Notre propre endoctrinement prend place si tôt dans notre vie et vient de tellement de directions à la fois, nous ne remarquons pas le processus. » Citation de Hill, « The world turned upside down ». Cet endoctrinement a eu d'importantes conséquences dans la formation de nos conceptions du travail, du temps, du plaisir, de la sexualité des femmes, comme de la nature et de la valeur intrinsèque du monde. La réforme et en Angleterre la révolution et la restauration au milieu du XVIIe siècle peuvent être aisément dépeintes comme des conflits entre deux classes opposées, aux idéologies religieuses et philosophiques différentes. La première pourrait être appelée « ordre ancien », la hiérarchie statique soutenue par l'Église catholique ou anglicane, qui maintenait la coutume, la tradition et l'autorité. Le pouvoir sous-jacent et la fortune de l'ordre ancien étaient basés sur la terre. Le nouvel ordre, représenté par les principales sectes protestantes, luthériens, zwingliens, calvinistes, puritains en Angleterre, contestaient la hiérarchie et l'autorité et défendaient l'autorité de la conscience individuelle. Il s'appuyait principalement sur les couches montantes de professionnels et de commerçants, et leur pouvoir et leur fortune, qui en vinrent à triompher, étaient fondés sur l'argent, c'est-à-dire sur la propriété et l'usage du capital dans une économie de marché. L'ordre ancien et le nouvel ordre situaient tous deux Dieu en tant que source de la vraie valeur, en dehors du monde vivant. Dans l'ordre ancien, la valeur était rapportée au monde par la hiérarchie ecclésiastique et par l'aristocratie des propriétaires terriens qu'il justifiait. Dans le nouvel ordre, la valeur était rapportée au monde, c'est-à-dire Dieu parlait, par la conscience individuelle, sans le besoin d'une intervention hiérarchique. Max Weber, dans son ouvrage classique « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », a montré comment l'idéologie protestante de l'individualisme est devenue progressivement une nouvelle idéologie du travail et du profit. La théorie de la prédestination affirmait que seuls quelques élus étaient, depuis le commencement des temps, destinés au salut. Ce petit nombre, les élus, était la voix du monde. Le reste, la grande majorité, était du superflu, irrémédiablement damné et sans importance propre. Cette doctrine reflétait et soutenait la distribution inégale des grâces et des compétences dans ce monde. Elle légitimait l'inégalité. Le travail et le gain matériel étaient signes qu'on appartenait au monde des élus. L'argent était chargé d'une nouvelle valeur symbolique. Il représentait le signe de la grâce, le moyen par lequel la valeur de Dieu était retournée au monde, et par conséquent, il devenait beaucoup plus important que n'importe quelle autre valeur. Le développement des marchés procura une arène dans laquelle le profit comme valeur pouvait fleurir. Le développement de l'éthique protestante renforça la transformation de l'économie européenne en une économie de plus en plus contrôlée par les marchés. Ceux-ci ne se fondaient pas sur la valeur des choses pour elles-mêmes, ni sur l'aisance, l'agrément ou l'utilité que les choses pouvaient procurer, mais sur le gain et le profit, sur les choses en tant qu'instruments de profit. Le nouvel ordre approfondit encore la mise à distance. Il y avait cependant une troisième force, en conflit avec l'ordre ancien comme avec le nouvel ordre. Les classes paysannes, travailleuses, dont la richesse, lorsqu'elles en avaient, se limitait à un bout de terre pour subsister, dont le nombre était grand et les sources de pouvoir peu nombreuses. L'histoire relate parfois leurs soulèvements et leurs rébellions, mais rarement leurs croyances, leurs philosophies et leurs idéaux. En Angleterre, pendant la Révolution de 1641 à 1660, la censure fut abolie. Les écrits populaires qui ont émergé à cette époque reflètent une grande variété de philosophies religieuses et politiques. Mais ce qui est communément répandu parmi eux, c'est la reconnaissance de la véritable valeur de ce monde et cette vie, la vision du monde que j'ai appelée « immanence ». Il est difficile d'établir dans quelle mesure cette vision du monde s'enracinait directement dans les restes de la vieille religion. Les sectes religieuses les plus radicales se présentaient toujours dans un cadre chrétien, aussi païennes que soient leurs idées et leurs pratiques. Les persécutions de sorcières engagées par les représentants de l'ancien comme du nouvel ordre, sous les auspices du roi et du parlement, créèrent un climat dans lequel un mouvement ouvertement païen aurait été confronté aux préjugés populaires comme à une répression sévère et immédiate de la part des autorités de l'Église et de l'État. Beaucoup de paysans et d'ouvriers agricoles dépossédés et sans terre squattaient les forêts et les landes dans lesquelles il y avait de la liberté par rapport aux curés et aux seigneurs. Dans les forêts étendues comme Sherwood, Ardennes et dans la Nouvelle Forêt, vivait une société mobile et changeante de, je cite, « squatteurs, artisans itinérants et ouvriers du bâtiment, chômeurs, hommes et femmes cherchant du travail, troupes de théâtre ambulantes et jongleurs, mendiants et charlatans, docteurs, vagabonds et clochards. » Ils étaient hors la loi, personne ne les gouvernait, ils ne faisaient attention à personne, ils ne dépendaient de personne. Fin de citation. C'est dans ces régions qu'eurent lieu les plus importantes révoltes paysannes au début du XVIIe siècle, selon Christopher Hill, et que, d'après notre tradition orale, la sorcellerie s'est maintenue le plus longtemps. C'est dans la Nouvelle Forêt que Gerald Gardner a découvert dans les années 1930 un convent de sorcières qui disait descendre en ligne droite de l'époque de Guillaume le Conquérant. Les squatteurs dans les forêts ou les régions pastorales, souvent très loin de toute église, étaient largement ouverts aux sectes religieuses radicales ou à la sorcellerie. L'hostilité au clergé était un élément frappant les ballades de Robin des Bois. Les forêts densément peuplées du Northamptonshire étaient des lieux de puritanisme rural, de sectes étranges et de sorcellerie. Le district fromager du Wiltshire, qui avait été le théâtre de violences résultant de la déforestation au début du XVIIe siècle, était aussi une région de travailleurs du textile mal payés et occasionnels et d'hérésies religieuses. Elle a longtemps été un centre d'irrévérence et de résistance plébéienne. On disait que les habitants de l'île d'Axholm avaient été virtuellement païens jusqu'au drainage des marécages. Citation de Hill.
Matthew Hopkins, le découvreur de sorcières, trouva deux villages dans le Northamptonshire qu'il décrit comme infestés de sorcières entre 1645 ou 1646. Une année plus tard, lui ou son collègue sont peut-être à l'origine des procès à Ely qui se sont terminés par plusieurs exécutions. Le Wiltshire, le comté où se trouvaient Stonehenge et Avebury, était l'ancien centre de la religion pré-chrétienne. Robin des Bois est identifié au dieu des sorcières, aussi bien par la tradition orale que par les minutes des procès. Sa bande de joyeux lurons et la demoiselle Marion forment un couvent de 13 personnes. Demoiselle était, et est encore, le titre honorifique pour une des femmes qui dirige un couvent. Et Marion est un des noms communs aux femmes jugées pour sorcellerie en Angleterre. Le culte des sorcières, qui a survécu de si nombreux siècles en tant que religion populaire souterraine, peut avoir contribué davantage au protestantisme radical qu'on ne l'a estimé jusqu'à présent. Les sorcières, dit Cotton Mather, dans une phrase significative, sont organisées comme les congrégations religieuses. Certains aspects du culte des sorcières ont beaucoup en commun avec les hérésies médiévales comme avec les sectes protestantes. Les connexions, s'il y en a, sont obscures et difficiles à établir. Beaucoup plus de recherches seraient nécessaires avant de pouvoir parler avec certitude. Ce qui est clair, c'est la base populaire de ce culte. C'était une organisation secrète, anti-étatique, opposée à l'Église d'État. Beaucoup d'animateurs des révoltes paysannes de cette époque se disaient envoyés par Dieu. Certains d'entre eux peuvent avoir été envoyés par le dieu des sorcières plutôt que par Yahvé. Fin de citation. De nombreuses recherches seraient en effet nécessaires pour pouvoir établir fermement des connexions directes. Mais la similarité sous-jacente des idées peut être démontrée. Les sectes radicales, comme les sorcières, prêchaient l'immanence de Dieu, Dieu présent dans le monde. Les familistes, une des sectes les plus précoces, étaient les disciples de Henri Nicolas, né en 1502, qui enseignait que le paradis et l'enfer se trouvaient dans ce monde. Une secte proche, la famille de la montagne, se demandait si le paradis et l'enfer existaient ailleurs qu'en cette vie. Le paradis, c'était quand les hommes riaient et étaient joyeux. L'enfer était le chagrin, la plainte et la souffrance. Citation. Le Christ, soutenait-il, était en chaque croyant. Les Renters, qu'on pourrait imaginer facilement comme les hippies du XVIIe siècle, exaltaient la lumière dans la nature sous le nom de Christ en l'homme. Ils appelaient Dieu raison ce qui, au XVIIe siècle, avait une signification plus proche de conscience que de logique mécaniste. L'un d'entre eux a dit que, s'il y avait un Dieu, lui-même en était un. Dieu est en chaque personne et chaque chose vivante, dit Jacob Botlamy, dans un pamphlet daté de 1659. Dans l'homme et la bête, le poisson et l'oiseau, et toute chose verte, depuis le cèdre le plus haut jusqu'au lierre sur le mur. Il est moi, et moi, je suis lui. Les Renters s'appelaient l'un l'autre « créature amie », une réminiscence des salutations rituelles dans l'ère sorcier. Ils se référaient à eux-mêmes collectivement comme « ma chair une ». Dieu était un membre de la communauté de ma chair une, matière une. Les Renters insistaient sur le fait que la matière est bonne, car nous vivons ici et maintenant. Les Digers, une autre secte radicale, essayèrent d'abolir la propriété privée, de détenir la terre de manière commune et de restituer les terres communales et les friches aux plus démunis afin qu'ils puissent y vivre. Le 1er avril 1649, un groupe d'ouvriers agricoles commença de creuser les territoires communaux à Saint-Georges Hill, sur le bord de la grande forêt de Windsor, une région aux traditions à la fois païennes et radicales. Gérard Winstanley, leur philosophe leader, avait eu une vision au cours d'une transe qui lui disait de faire savoir partout que la terre devrait être un trésor commun pour la vie de toute l'humanité. Une seconde formulation était « La religion vraie et sans tache est de laisser chacun avoir tranquillement de la terre à engraisser. Le travail collectif des terres communales était un acte religieux pour les Digers. Les excréments qui rendaient la terre fertile avaient la prééminence sur la culture. Les Digers ont pu avoir des relations avec les sorcières, ou ne pas en avoir. En tout cas, leur religion était certainement celle de la terre. Winstanley, lui aussi, faisait de Dieu la raison universelle qui, habite en chaque créature et suprêmement dans l'homme. Cette idée de Dieu comme immanent à toute la création matérielle est liée au respect pour la science de la nature en tant que moyen de connaître les œuvres de Dieu. Connaître les secrets de la nature et connaître les œuvres de Dieu. Il identifiait le Dieu chrétien traditionnel qui légitime la propriété privée avec le démon et la chute avec le développement de la propriété privée. Les sectes étaient connues pour pratiquer la liberté sexuelle. Les Ranters et les Quakers allaient parfois nus. C'était un signe de la grâce. Le Ranter Lawrence Clarkson a anticipé Freud et Norman O'Brown en faisant du péché, non pas un acte, mais sa répression. Personne ne peut être libéré du péché jusqu'à ce que, dans la pureté, l'acte soit sans péché, car je juge pur pour moi ce qui, pour une compréhension obscure, est impur. Car pour le pur, toutes les choses, tous les actes sont purs. Sans acte, il n'y a pas de vie. Sans vie, pas de perfection. Quel que soit l'acte fait par toi dans la lumière et l'amour, il est simple, il est clair et aimable. Si quelque chose en toi ne te condamne pas, tu ne seras pas condamné. Fin de citation. Ces mots sont comparables au dire de la déesse, moderne, d'origine inconnue, qui appartient à la liturgie des sorcières d'aujourd'hui. Tous les actes d'amour et de plaisir sont mérituels. Et si ce que vous cherchez, vous ne le trouvez pas en vous-même, jamais vous ne le trouverez au dehors. Car j'ai été avec vous depuis le commencement, et je suis ce qu'on atteint à la fin du désir. Dans les sectes, certaines femmes occupaient aussi des positions élevées. Elles étaient autorisées à participer au gouvernement de l'Église. Elles prêchaient, voyageaient à travers le pays en compagnie des hommes, s'élever contre les mariages inégaux et demander le divorce par simple déclaration. May Carey, une prêtresse, écrivit un pamphlet utopique en 1651 qui déclarait que « Le temps vient où non seulement les hommes, mais les femmes prophétiseront. Non seulement les hommes âgés, mais les hommes jeunes. Non seulement qui sont allés apprendre à l'université, mais ceux qui ne l'ont pas fait, même les servantes, et les bonnes. »
L'ascension du Nouvel Ordre et de son éthique protestante et la défaite des sectes radicales furent un triomphe politique, économique et religieux des classes commerçantes et professionnelles sur les classes paysannes et laboureuses et de la domination masculine sur les femmes. L'éthique protestante, en s'imposant, fit campagne contre les idées de l'immanence dans trois domaines, le travail, la sexualité et la philosophie. Max Weber a montré en quoi la propagation de l'éthique protestante a dispensé une nouvelle idéologie du travail, déplaçant la valeur de l'usage au profit, ce qui serait le développement du capitalisme. Le concept de vocation attribue une nouvelle valeur au travail et au profit, lesquels devinrent des signes de l'appartenance à l'élite et ne furent plus évalués selon leurs bénéfices réels, les bénéfices matériels qu'ils apportaient, mais en tant que vecteur pour approcher Dieu. Le travail et le profit, paradoxalement, étaient perçus comme s'ils n'étaient pas de ce monde. Ils devenaient des objectifs en soi, des objectifs bons en eux-mêmes et d'eux-mêmes. Le travail devint une discipline ascétique et, citation, « cet ascétisme se tourna de toute sa force contre une chose, le plaisir spontané de la vie et de tout ce qu'elle offre. » Fin de citation. Pour les classes montantes, argentées, le travail dur et l'autodiscipline ascétique, même motivée par la piété, se payaient de succès matériel. Elles prospéraient et l'on pouvait jouir de cette prospérité en tant que signe visible de la grâce de Dieu, même si les autres réjouissances spontanées, le sexe, la danse, le sport, les jeux, les festivités et la nature, étaient toujours considérées comme des œuvres du démon. Pour les classes paysannes et laborieuses, cependant, la discipline et la dureté du travail conduisaient au mieux à la simple survie. L'éthique du travail était utilisée par les classes argentées pour imposer leur discipline aux travailleurs et aux pauvres. La fainéantise était un péché, et accuser les villageois de fainéantise servit à justifier les clôtures des terres. Un tel péché justifiait aussi les bas salaires qui, idéalement, citation, devaient permettre aux travailleurs tout juste de vivre, car si vous lui en donnez le double, alors il travaille, mais deux fois moins. Un homme ne souhaite pas, par nature, gagner de plus en plus d'argent, mais simplement vivre comme il en a l'habitude, et gagner autant qu'il est nécessaire dans ce but. Partout où le capitalisme moderne a commencé son travail d'accroissement de la productivité du travail humain en accroissant son intensité, il a rencontré la résistance immensément obstinée de ce trait saillant du pré-capitalisme. Les festivités traditionnelles, les jours des saints, qui étaient souvent des versions christianisées des anciennes fêtes païennes, les danses et les jeux furent sévèrement critiqués par les protestants orthodoxes. Les persécutions de sorcières furent une attaque contre les cérémonies, les croyances et les coutumes qui avaient soutenu les classes paysannes et laborieuses dans leur désir de confort et de réjouissance, pour le plaisir dans la vie comme dans le travail. Le travail étant devenu une discipline ascétique, les femmes furent donc expulsées de nombreux secteurs du travail productif. Nous avons vu comment les clôtures des terres ont dépouillé les femmes de la terre qu'elles utilisaient pour nourrir leur famille, et comment l'émergence d'une profession médicale masculine, en plus des persécutions de sorcières, avait contraint les femmes à sortir des domaines du soin et de l'accouchement. Au Moyen-Âge tardif, les femmes tenaient des rôles importants dans l'artisanat et l'industrie. Le mariage était par maints aspects un partenariat d'affaires, et les femmes des marchands et des artisans travaillaient souvent aux côtés de leurs maris. Ainsi, les veuves, en général, reprenaient l'affaire de leur époux. Les femmes ont été brassières, boulangères, armateurs, éditrices, imprimeurs, gantières, colporteuses, marchandes, comptables, épinglières et commerçantes. Elles ont aussi travaillé dans l'agriculture et dans l'industrie textile. Aussi longtemps que la famille est restée l'unité de base de la production économique, les femmes avaient leur place dans maintes activités. Mais au fur et à mesure que l'industrie s'est déplacée de la maison ou de l'atelier vers les usines et les entreprises de grande taille, les femmes ont été exclues. L'unité productive s'est réduite aux travailleurs individuels, qui étaient plus facilement manipulés, plus aisément mobilisés et plus complètement exploitables quand le travail, et non la famille, le plaisir personnel ou les obligations communes, a été défini comme seul véritable objectif de cette vie.